Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Bienvenue dans l'émission Le Monde de la philosophie. En ce temps estival, je vous propose de prendre un petit peu de recul et de parcourir l'œuvre d'un des grands philosophes classiques, René Descartes. Voilà, un philosophe que vous connaissez sans doute pour l'avoir étudié au moins au lycée, peut-être davantage. Philosophe très classique, très célèbre. Qui appartient au petit nombre des philosophes dont le nom a donné un adjectif, en l'occurrence l'adjectif cartésien. Voilà, on a machiavélique, on a platonique, on a cartésien. Donc quand votre nom devient un adjectif, c'est que vous êtes a priori un philosophe significatif. Eh bien, je vous propose de réfléchir un petit peu ensemble à sa pensée. Voilà, je suis tout seul, je vous propose d'entrer dans l'itinéraire cartésien, dans la pensée de ce grand philosophe du XVIIe siècle, qui a bouleversé pour une part la philosophie, qui est, on pourrait dire, le premier grand philosophe moderne. En tout cas, ce qui apparaît au premier abord, c'est vraiment la spécificité du geste cartésien. Descartes, c'est le philosophe, pourrait-on dire, de la rupture, le philosophe de l'innovation, celui qui décide d'inventer une nouvelle manière de philosopher, qui est vraiment un nouveau départ dans la philosophie. En tout cas, c'est comme ça qu'il est souvent présenté, et c'est comme ça que lui-même se positionne, il revendique d'être un nouveau départ pour la philosophie, il revendique de faire table rase du passé. Dans le discours de la méthode, qui est une œuvre dans laquelle Descartes retrace son itinéraire de pensée en première personne, Descartes raconte qu'il était élève chez les jésuites au Collège de la Flèche. Il avait étudié beaucoup de disciplines diverses et variées, mais il constate un petit peu amèrement qu'aucune de ces disciplines ne lui a donné la certitude qu'il cherchait. Aucune de ces disciplines ne lui paraît vraiment scientifique, ne lui paraît vraiment sûre. Mais à chaque fois, il y a des doutes, à chaque fois, il y a des incertitudes. Dans toutes les disciplines qu'il a étudiées, de la théologie à l'histoire, en passant par la philosophie qu'on lui a enseignée, la philosophie scolastique. Donc un petit peu comme chez Platon, dans l'allégorie de la caverne, où les prisonniers pensent savoir, mais en fait sont dans l'illusion. Et le premier pas pour sortir de la caverne, c'est de se rendre compte qu'ils sont dans la caverne et non pas au grand jour. Et bien de même, chez Descartes, tout commence par ce constat, cette prise de conscience de l'incertitude. Ce que je croyais savoir, ce qui me semblait aller de soi, finalement se révèle être incertain, se révèle n'être pas si sûr que ce que cela semblait au premier abord. Nous nous découvrons finalement dans l'illusion, nous nous découvrons incertains de ce que nous croyons. Et cette illusion est en quelque sorte pire que l'ignorance, puisque... finalement, dans l'illusion, nous croyons que nous savons, alors que nous ne savons pas, alors que ignorants, nous savons que nous ignorons. Donc il y a en quelque sorte dans l'illusion une ignorance au carré qui est dramatique et dont Descartes va essayer de s'émanciper, de sortir. Descartes commence donc par constater cette incertitude. Finalement, est-ce que je sais vraiment ? Ce que je crois savoir, je le sais véritablement, et il se rend compte qu'il est comme tout le monde, plein de préjugés, il tient plein d'opinions pour vraies parce qu'il les a reçues de son éducation, de sa tradition. Il y a cette phrase assez célèbre: nous avons été enfants avant que d'être hommes, et étant enfants, nous avons reçu beaucoup de choses dans notre créance, dans notre croyance. Et il s'agit de se demander si ce que j'ai reçu est véritablement fondé. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de croire ce que je crois ? Est-ce que tout ce que j'ai reçu par héritage, cela est solide, cela tient la route ou pas ? Ça va être le grand point de départ cartésien, finalement se rendre compte que ce que j'ai reçu n'est pas si certain, et donc faire table rase de ce passé, faire table rase de cet héritage, de cette tradition reçue. C'est le grand geste inaugural du cartésianisme, ce besoin de tout reprendre à zéro, en quelque sorte, de tout refonder, de refaire la philosophie à partir de zéro, parce qu'il semble que la philosophie est mal fondée, repose sur des croyances qui ne sont pas aussi certaines qu'elles en ont l'air. Et donc, ça va être ce pas cartésien dont Peggy parle. Peggy dit Descartes, ce chevalier français qui partit d'un si bon pas. En effet, il y a chez Descartes à la fois cette méfiance, mais aussi cette insouciance. Il pense qu'il va, à lui tout seul, en quelque sorte, refonder la philosophie, reprendre ce qui a été mal établi, selon lui, depuis Aristote. Donc Aristote, 22 siècles avant lui, il imagine qu'il va pouvoir tout reprendre. Il y a cette insouciance, cette audace, cet héroïsme cartésien qui décide de recommencer. Comment est-ce qu'il va recommencer? Il va s'appuyer sur l'unique méthode qui lui paraît sûre. Donc, le mot même méthode est vraiment un grand mot cartésien. Il dit qu'il faut philosopher avec méthode, avec ordre. Il ne faut pas se laisser conduire par toutes les opinions que nous avons, mais il faut reprendre tout à zéro avec méthode, de manière méthodique, vraiment selon un ordre précis, déterminé, l'ordre des raisons. Et il va falloir tout reprendre, donc tout refonder à partir d'une certaine méthode. Et cette méthode, Descartes va l'emprunter à la seule science qui a trouvé grâce à ses yeux, la seule science qui lui semble véritablement fondée et pas incertaine comme les autres, qui est la méthode géométrique. En géométrie, donc la géométrie d'Euclide par exemple, Descartes reconnaît une véritable science qui procède avec ordre, avec méthode, et qui nous permet d'arriver à des conclusions solidement établies et à partir desquelles sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, au contraire des opinions et des préjugés qui, eux, ne nous fournissent un sol que mouvant, comme des sables mouvants en quelque sorte, et au contraire il va falloir trouver un roc sur lequel se fonder, et ce roc ce sera la méthode géométrique. Donc ça c'est le grand geste cartésien, tout reprendre, tout refonder à partir de cette méthode géométrique, en posant des principes clairement établis, en déduisant à partir de là des conséquences, en tirant certaines conséquences de manière tout à fait logique et rigoureuse. Donc ça, c'est le projet cartésien. L'image d'Épinal qu'on a de Descartes, voilà, comme rompant avec tout ce qui précède, peut tout de même être un petit peu nuancée. Les études historiques sur Descartes, en particulier à partir d'Étienne Gilson au début du XXe siècle, ont montré que Descartes devait quand même beaucoup à la philosophie scolastique dont il prétend s'émanciper. On va voir qu'en fait, le contenu de sa pensée ressemble beaucoup à celui de la philosophie scolastique. On va le voir démontrer l'existence de Dieu, on va le voir établir la juste méthode pour connaître. Le contenu finalement de la philosophie descartésienne emprunte à la philosophie scolastique, mais la méthode, la manière sera très différente, nous allons le voir. Mais voilà, Descartes ne recommence pas tout à partir de zéro, il emprunte. Étienne Gilson, qui est un des premiers à avoir établi cette relative continuité de Descartes avec ses prédécesseurs scolastiques, Étienne Gilson racontera un peu plus tard comment est-ce qu'il a découvert ça chez Descartes. Il écrit la chose suivante dans un petit livre qui s'appelle Le philosophe et la théologie. Il dit que plutôt que d'y remonter comme à une source, Descartes avait exploité la scolastique comme une carrière. À mesure que le travail avançait, j'éprouvais une désolation intellectuelle croissante à voir quel pauvre résidu le cartésianisme avait conservé de positions philosophiques dont la justification plénière ne se trouvait pas chez lui, mais dans les théologies scolastiques. De la scolastique à Descartes, la perte de substance métaphysique me semblait immense. Alors ça, c'est le jugement de l'historien Étienne Gilson. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette image de la scolastique et pour Descartes comme une carrière qu'il exploite, dont il va reprendre certaines pierres, certains morceaux, mais qu'il va aussi réagencer selon son, non pas son bon plaisir, mais selon l'ordre des raisons qui lui paraît plus opportun. Donc il y a une part de continuité, même si l'image d'Épinal de la rupture cartésienne a évidemment du vrai en tant que Descartes et celui de le philosophe d'un nouveau départ, d'une certaine table rase du passé. Vous connaissez peut-être le livre de François-Xavier Bellamy, Les Déshérités, où Bellamy étudie trois grandes figures qui nous aident à comprendre la manière dont nous comprenons aujourd'hui l'éducation, et il parle donc de Descartes, de Rousseau et de Bourdieu, et il montre bien en quoi Descartes est vraiment ce philosophe de la table rase du passé, au moins revendiqué. Parcours maintenant l'itinéraire cartésien qui se trouve assez célèbre, mais dont le détail est tout de même important et que je vous propose de parcourir ensemble. Cet itinéraire, il est exposé dans trois grands textes cartésiens qui disent à peu près la même chose, de manière un petit peu différente selon le genre littéraire de chaque texte. D'abord, le discours de la méthode en 1637, qui est vraiment un monument de la langue française, évidemment, un des premiers textes philosophiques écrits vraiment en français, en tout cas à cette époque-là. Et dans le discours de la méthode, voilà, Descartes, en première personne, raconte son itinéraire et résume, on pourrait dire, son itinéraire proprement philosophique, qui sera ensuite plus développé, de manière plus rigoureuse, dans les Méditations métaphysiques, en 1641. D'abord écrite en latin par Descartes, traduit par un de ses amis, le duc de Luynes, voilà, mais une version évidemment autorisée par Descartes, donc les Méditations métaphysiques, texte voilà, le plus célèbre. Et puis en 1644, donc 3 ans après, les Principes de la philosophie, qui là encore relève d'un genre littéraire différent, puisqu'il s'agit d'un manuel en quelque sorte que Descartes a écrit. Et dont il espérait qu'il remplace les manuels de philosophie scolastique dans les écoles. Et donc là, il reprend les choses un petit peu différemment, non pas en première personne, mais selon un ordre philosophique plus objectif, peut-être plus abstrait, plus impersonnel en tout cas. Voilà. Donc ce sont les trois grands textes de Descartes dans lesquels il va décrire son itinéraire qui est peu ou prou le même. Cet itinéraire, donc, c'est un itinéraire de méditation, comme l'indique l'un des titres de Descartes, une méditation d'un solitaire, d'un philosophe solitaire, d'un esprit. L'histoire, en quelque sorte, d'un esprit, écrit donc en première personne pour le discours de la méthode et pour les méditations métaphysiques, et puis une expérience de pensée. Vraiment, on voit l'itinéraire de la pensée d'un homme, Descartes, qui se déploie au fur et à mesure du temps, en passant par différentes étapes. Il y a presque, on pourrait dire, une sorte de dramatique cartésienne, voilà, presque un côté romanesque, où il passe par différentes étapes, différentes émotions aussi, nous allons le voir. Et il y a voilà, tout un cheminement de pensée, une histoire de pensée qui nous est restituée, qui nous est communiquée, et le lecteur est évidemment appelé à faire pour lui-même son propre chemin, c'est de parcourir cet itinéraire que Descartes a tracé, mais que chacun peut reprendre à son compte. Le point de départ donc de ces trois itinéraires, c'est d'abord, donc, je l'ai déjà dit un petit peu en introduction, le constat de l'erreur, le constat de l'incertitude. Est-ce que vraiment je sais? Est-ce que mes connaissances sont solides? Ah ben une fois, je pensais savoir telle chose. Et je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Et à partir de là, je me demande, est-ce que du coup, ce que je crois, est-ce que je ne me trompe pas à chaque fois en le croyant, est-ce que ce que je crois est véritablement fondé? Du fait que j'ai une fois fait une erreur, pourquoi est-ce que je n'en ferai pas à chaque fois? L'incertitude, une fois constatée, s'étend en quelque sorte à toutes mes croyances, à toutes mes opinions, à tout ce que je crois être vrai. Donc il y a d'abord ce constat de l'incertitude qui nous advient pour notre propre vie à différents moments. Nous découvrons que ce que nous croyons quand nous étions enfants ne correspondait pas exactement à la réalité. Et Descartes, donc, faisant ce constat assez évident, assez commun, va faire quelque chose d'un petit peu moins commun, un petit peu moins évident, qui est de se résoudre à chercher la vérité de manière rigoureuse et de chercher une vérité qui sera véritablement indubitable, dont on ne pourra plus douter, qui sera absolument certaine, qui ne sera plus éprouvée par les incertitudes. Il va donc se résoudre, vraiment, c'est un acte de la volonté, dit Descartes. Je fais un acte de volonté et je décide de me mettre en quête de la vérité. Il y a comme une décision de philosopher. Voilà, je pourrais continuer à vivre avec simplement mes croyances, tout ce qui me semble bien établi. Je pourrais en rester au sens commun, en rester aux opinions communes. Voilà ce que tout un chacun pense, ce qui est assez répandu. Mais non, dit René Descartes, je veux être philosophe, je veux me résoudre à chercher une vérité indubitable, à chercher quelque chose qui résiste au doute, qui ne sera pas ébranlé, une vérité inébranlable. Et pour cela, je vais la rechercher avec ordre, avec méthode, de manière rigoureuse et non pas de manière rhapsodique et aventureuse comme nous le faisons habituellement. Donc il y a d'abord cette résolution de chercher la vérité. Descartes reconnaît tout à fait qu'elle est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire, qu'elle sort de, pour notre vie pratique, dit Descartes, nous n'avons pas du tout besoin de nous mettre à douter ainsi, nous pouvons rester aux opinions communes établies, que les couleurs soient réelles ou pas, ça ne m'empêchera pas d'aller faire mes courses et d'aller... Et de continuer à manger. Ça, dans ma vie pratique, je reste de toute façon tributaire de ces opinions communes. Mais au plan spéculatif, là, je puis mettre en suspens mes opinions et rechercher des vérités absolues. Et donc il y a cette résolution extraordinaire qui sort de notre vie pratique commune et qui est une décision de philosopher, une décision de chercher la vérité. Pour commencer, dit Descartes, je vais, une sorte de résolution dans cette première résolution, je vais d'abord me résoudre, dit-il, à douter méthodiquement. Je vais, autant que possible, remettre en question tout ce que je sais, tout ce qui m'est venu d'une manière ou d'une autre, tout ce que je crois savoir, tout ce qui se trouve dans mon esprit. Je vais les mettre en doute, je vais en douter. Le plus possible, un doute qu'on appellera hyperbolique, universel, un doute radical, un doute méthodique. Je vais donc les remettre en cause, les suspendre mon adhésion à toutes ces opinions, et je vais les écarter au maximum. Et en les écartant au maximum, je vais peut-être, j'espère en tout cas, découvrir une vérité qui, elle, résistera à ce doute, qui, elle, ne saurait être mise en doute. C'est ça le pari cartésien, on pourrait dire un genre de tsunami du doute. Je vais essayer de douter au maximum et peut-être que certaines vérités résisteront à ce tsunami. Et dans ce cas-là, je pourrais être certaine de ces vérités-là, puisqu'elles seront indubitables, puisqu'elles seront inébranlables et que même le tsunami le plus puissant du doute n'a pu les emporter. Voilà, donc ça, c'est la résolution cartésienne de douter. Il va chercher quelques raisons pour douter des connaissances que nous avons. Une raison de douter suffit. Ça, c'est important, même si je n'ai pas vraiment de raison de remettre en cause telle ou telle vérité, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle est bien établie, eh bien, je puis quand même en douter, même si cette raison de douter est très, très, très improbable, même si... Il est quasiment certain que cette vérité est réelle, que cette opinion en tout cas correspond à une vérité. Si j'ai la moindre petite raison d'en douter, eh bien, je dois provisoirement la tenir pour fausse. Ça, c'est le geste cartésien. Je décide de rejeter tout ce dont je peux douter. Je vais le tenir provisoirement pour faux, même si c'est très invraisemblable que ce soit faux. Il me semble bien actuellement que vous êtes en train d'écouter la radio et que moi je suis en train de vous parler à la radio. Ça semble extraordinairement certain. Mais si je trouve la moindre raison d'en douter, si peut-être, on ne sait jamais, par hypothèse, il pourrait y avoir une raison pour laquelle cela ne serait pas vrai, alors il faut que je tienne cela pour faux, provisoirement. Et ensuite, on verra si on peut la fonder en raison. Descartes va donc donner trois arguments qui vont emporter toutes les connaissances qu'il a, toutes les opinions qui se trouvent dans son esprit. La première raison de douter, c'est la tromperie des sens. Il m'est déjà arrivé de me tromper, il m'est déjà arrivé que ma perception sensible me trompe. L'exemple classique, c'est si vous trempez une cuillère dans un verre d'eau, vous voyez la cuillère de manière brisée, vous avez l'impression qu'elle est cassée. Alors que pas du tout, elle n'est pas du tout cassée, mais c'est un effet d'optique. Voilà. La moindre illusion d'optique suffit pour Descartes à remettre en cause la vérité de la perception sensible. Peut-être que mes sens me trompent toujours. En tout cas, ils m'ont une fois au moins trompé. J'ai déjà eu des illusions d'optique, des mirages, etc. Eh bien, peut-être que toujours mes sens me trompent. Je ne peux pas me fier à mes sens, puisque une fois au moins, ils m'ont trompé, et donc peut-être qu'ils sont toujours trompeurs. Rien n'établit actuellement qu'ils sont véridiques. Donc ça, c'est le premier argument. Le second argument, ce sera l'argument dit de l'indistinction du rêve et de la veille. Voilà, quand je rêve, généralement, je crois bien que c'est la réalité. Je rêve faire telle ou telle chose, et bien il me semble que c'est la vérité. Et lorsque je me réveille, je me rends compte que ce n'était qu'un rêve. Mais sur le moment, j'avais bien l'impression que c'était la réalité, que j'étais éveillé et non pas en train de rêver. Et donc, dit Descartes, puisque parfois je prends mon rêve pour la réalité, pourquoi il n'en serait pas toujours ainsi? Peut-être que, en fait, je suis tout le temps dans une sorte de rêve, je suis tout le temps dans une illusion. Je crois que c'est la réalité, mais en fait, cette réalité est illusoire autant que mon rêve. Je suis en permanence, peut-être, en train de rêver. On connaît des actualisations assez remarquables de cette thèse. Je pense, par exemple, au film Matrix, qui nous présente une humanité qui, en fait, croient vivre dans le monde réel, mais en fait, en réalité, sont dans des cuves avec simplement des implants nerveux qui leur font croire qu'ils sont dans une réalité, mais qui en fait est totalement virtuelle. Et donc, ils sont en fait dans une sorte de rêve permanent. Voilà, donc ça, c'est le deuxième argument. Et puis le troisième argument, c'est, va encore un petit peu plus loin. L'objection que se fait Descartes, c'est bon, d'accord, peut-être que je suis tout le temps en train de rêver, mais il n'empêche que, par exemple, les vérités géométriques, les vérités mathématiques, bon, bah, elles résistent quand même au doute. Peut-être que rien n'existe que mon esprit, peut-être que tout est une illusion, une projection de mon esprit, mais il n'empêche que, voilà, 2 plus 2 égale 4, même en rêve, ça fonctionne encore. Donc, est-ce que je vais trouver une raison de douter de ces vérités mathématiques, ou est-ce que, au contraire, elles sont indubitables? Et Descartes va trouver une raison de douter de ce qu'il appelle les natures simples, donc notamment les vérités mathématiques. C'est l'argument dit du Dieu trompeur. Peut-être, c'est vraiment une pure hypothèse, mais on ne sait jamais, peut-être qu'il en est ainsi, peut-être que un certain Dieu, un certain esprit me trompe toujours. Voilà, peut-être que j'ai beau voilà, je fais mes calculs, mes calculs me donnent que 2 plus 2 égale 4, ça me semble une nécessité. Et peut-être que, en fait, en réalité, 2 plus 2 égale 5, et que c'est toujours une sorte de dieu trompeur qui m'induit en erreur à chaque fois et qui me fait calculer 2 plus 2 égale 4, alors qu'en fait, 2 plus 2 égale 5. Descartes ne dit pas du tout que c'est le cas, il dit pas du tout que c'est probable qu'il en soit ainsi, mais il dit que c'est pas impossible, vous voyez. Il suffit que ce ne soit pas absolument impossible, absolument contradictoire. Si ce n'est pas contradictoire, alors, on sait jamais, pourquoi pas, en quelque sorte, principe de précaution. Dans ce cas-là, il me faut suspendre mon adhésion à ces vérités mathématiques qui me paraissent pourtant extrêmement bien établies. Donc ça, c'est un argument c'est assez puissant de Descartes. On ne sait jamais, peut-être que un certain Dieu me trompe sans cesse et me fait croire aux vérités mathématiques, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas comme elles me paraissent. Derrière, il y a un argument théologique que Descartes emprunte à certains théologiens scolastiques, qui est ce qu'il appelle la création des vérités éternelles, qui est de dire que Dieu n'est pas soumis lui-même au principe de contradiction. Dieu a établi les vérités qui nous paraissent, nous, nécessaires. Par exemple, 2 plus 2 égale 4, ça nous semble une vérité absolument nécessaire. Le tout est plus que les parties, ça nous semble une vérité nécessaire. Voilà, un certain nombre de vérités qui nous paraissent nécessaires. Certains théologiens scolastiques disent, mais en fait, Dieu est au-dessus du principe de contradiction, Dieu est au-dessus de cette nécessité, c'est lui qui institue cette nécessité, et il n'y a aucun ordre des choses qui s'imposerait à Dieu lui-même, et donc c'est pas impossible que en réalité il n'en soit pas ainsi, en réalité 2 plus 2 ne fasse pas 4. Peut-être que Dieu librement a institué cette vérité-là, mais il aurait pu en être autrement, et peut-être qu'il en est d'ailleurs autrement. Oui, donc il y a un argument théologique qui rend possible, non pas réel, mais qui rend possible, qui rend pas absolument contradictoire, le fait que les vérités mathématiques soient peut-être trompeuses et que je me trompe lorsque j'affirme que 2 plus 2 égale 4. Donc ça, c'est dans la première méditation métaphysique, Descartes remet en cause toutes ses opinions. Il trouve un certain nombre de raisons de douter, des raisons vraiment minimales, hein, qui sont très invraisemblables, évidemment, mais qui sont rationnelles, qui ne sont pas raisonnables. C'est-à-dire que si quelqu'un vous soutenait ça, vous prendriez évidemment pour un fou, mais qui sont rationnelles au sens où elles ne sont pas absolument impossibles, absolument contradictoires. Ça, c'est la première méditation métaphysique, ce grand doute méthodique, ce grand doute hyperbolique. Descartes remet en cause toutes ses opinions et il s'accoutume à douter. Il y a aussi un facteur psychologique qui rentre en compte. Descartes se rend bien compte qu'on a beau se dire que peut-être que nos perceptions sont fausses, dans la vie quotidienne, on s'appuie tellement dessus qu'on voit mal comment est-ce qu'on pourrait vraiment parvenir à les tenir pour fausses, à suspendre vraiment notre jugement. Et donc Descartes va donner des arguments psychologiques. Il s'agit de s'accoutumer, de se forger une sorte de contre-habitude, de méfiance, de doute, de remise en question, de suspension de notre jugement. Après donc cette grande remise en cause, Descartes va chercher s'il n'y a pas une vérité qui résisterait à ce tsunami. Du doute, ce tsunami du doute hyperbolique méthodique, et il va atteindre une première certitude, une première vérité indubitable dont je ne puis pas douter, et cette première vérité, c'est la grande vérité cartésienne extrêmement célèbre, c'est le cogito cartésien, le « je pense, donc je suis » de Descartes. Quelle est l'idée de ce cogito cartésien dont Descartes parle dans la deuxième méditation métaphysique. L'idée de Descartes est la suivante, elle est assez simple. Le fait est que là, actuellement, je doute. Je ne sais pas si mes opinions sont réelles. Je suis dans une action qui est de douter. Or, cette action de douter, elle est une certaine modalité de la pensée. Douter, c'est une certaine modalité de la pensée, comme par exemple affirmer en est une autre. Donc le fait est que, quoi qu'il en soit, je suis en train de douter, donc je suis aussi en train de penser. Or, je puis bien douter de tout ce qu'il y a autour de moi, de l'existence de toute chose, mais il semble bien qu'il y ait une chose qui résiste à cet argument du doute, et ce qui résiste à cette remise en question universelle, c'est ma propre existence comme sujet qui doute. J'ai beau douter de tout, je peux douter de tout ce qu'il y a d'extérieur à moi, mais si j'essaye de douter de moi-même, qu'est-ce qui se passe? Je doute de moi-même, je me demande si j'existe, mais me demander si j'existe, c'est penser, c'est douter, donc penser. Or, pour penser, il faut être. La pensée est l'attribut d'un certain sujet qui existe. Et donc, puisque je fais cet exercice effectif de penser, moi qui pense, je suis. Et donc c'est la grande affirmation cartésienne, je pense donc je suis, du fait même que je pense, par exemple que je sois en train de douter, je remonte à la condition de possibilité de cet exercice de la pensée, et la condition de possibilité de la pensée, c'est d'être. Si je n'existais pas, je ne pourrais pas douter, or je doute, donc c'est bien que j'existe. Voilà donc la première certitude que Descartes découvre au cours de son itinéraire, au creux même du doute, au plus profond, au creux de la vague, on pourrait dire au plus profond du doute, à l'intérieur même de ce doute, dans l'exercice même de ce doute, je tombe en quelque sorte sur une première certitude absolument inébranlable. Même si je doute, moi qui doute, je suis. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Première grande certitude cartésienne. Vous voyez que finalement, ce qui est, pour Descartes, ce qui est le plus évident, ce qui est le plus facile à connaître, c'est pas du tout l'existence des corps, c'est pas du tout ce que je perçois par mes sens. Ça, je peux trouver une raison d'en douter, donc c'est incertain, donc moins certain que ma pensée, qui elle est plus certaine. Donc ça, c'est le grand point de départ de la philosophie cartésienne, c'est cette affirmation de la priorité, de la primauté de l'esprit, qui est le plus connaissable, qui est le plus facile à connaître, qui est le plus évident. Alors même qu'il n'y aurait rien d'autre que moi, moi au moins, je suis, cela est absolument indubitable. Ça, c'est le point de départ, le roc inébranlable en quelque sorte, qui résiste au tsunami du doute. Ensuite, Descartes, donc, qui prend conscience donc, de son existence comme sujet, pensant, va se demander, ok, moi qui suis, que suis-je? Après la question de l'existence, donc la question de l'essence, moi qui doute, moi qui pense, moi qui existe, qu'est-ce que je suis? Quel est le moi? Que suis-je? Moi qui suis. Eh bien, Descartes va, donc là encore, de manière très, très rigoureuse et très logique, va tirer une conséquence, en quelque sorte, de cette première vérité qu'est le cogito. Cette première conséquence, c'est que moi qui suis, je suis un être pensant, tout simplement, c'est-à-dire un esprit, une substance pensante, voilà, une détermination vraiment minimale, mais moi qui suis et moi qui pense, parce que à minima je doute, eh bien je suis quelqu'un qui pense, je suis un être pensant, je suis une chose pensante. De l'acte de penser ou de l'acte de douter, par exemple, je remonte à la faculté, la capacité de penser, la faculté de penser, et cette faculté de penser, elle est la faculté d'un certain sujet dont qui a au moins une propriété, au moins un attribut, qui est celui de penser. Donc ce que je suis, c'est simplement un sujet pensant. Et donc Descartes, pour lui, ça a beaucoup d'importance, cette première vérité. Cette deuxième vérité, cette deuxième certitude qui est tirée de la première vérité du cogito, cette deuxième vérité lui permet d'établir ce qu'on peut appeler le spiritualisme, c'est-à-dire l'existence de l'âme, l'existence d'un principe pensant en moi qui ne dépend pas du corps. Pourquoi est-ce que mon âme ne dépend pas de mon corps? Pourquoi est-ce que mon esprit, ma substance pensante ne dépend pas de mon corps? Parce que, dit Descartes, autant je suis incertain de l'existence des corps, et même de l'existence de mon propre corps, parce que c'est pas parce que je le sens qu'il existe, parce que je puis me tromper, mes sens peuvent me tromper, et peut-être que je rêve, que je crois que j'ai un corps alors que je n'en ai pas, donc mon corps est incertain. Par contre, mon esprit, c'est-à-dire ma faculté de penser, le fait que je sois un être pensant, cela, au moins, est indubitable, cela est certain. Vous voyez, donc, c'est comme ça que Descartes va établir la distinction de l'âme et du corps, et la priorité de l'âme sur le corps. Je ne sais pas si j'ai un corps, mais je sais au moins certainement, et d'abord, que j'ai un esprit, que je suis un esprit. Vous voyez, donc, le spiritualisme est plus certain, plus premier que le matérialisme, et ça, pour Descartes, c'est tout à fait important, et c'est vraiment une des choses qu'il recherche dans ses méditations métaphysiques. Le sous-titre des méditations sont Méditations de philosophie première, où il est démontré l'existence de Dieu et l'existence de l'âme. C'est ainsi donc que Descartes parvient à l'existence de l'âme. Je vous quitte pour quelques instants pour une courte page de publicité, et nous retrouvons en quelques instants.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie, dans le monde de la philosophie. Nous parlons aujourd'hui de la philosophie de René Descartes, et nous parcourons ensemble l'itinéraire cartésien, à partir notamment de son grand texte « Les méditations métaphysiques » de 1641. Donc nous avons parcouru déjà un certain trajet, le doute méthodique, le cogito, et puis la prise de conscience que je suis un être pensant, que je suis une chose pensante, une res cogitans, et donc la vérité du spiritualisme. J'ai une âme, et cette âme est distincte de mon corps, puisque je puis la concevoir distinctement, sans savoir si mon corps existe, et bien alors réellement mon âme est distincte de mon corps, mon esprit est distinct de mon corps. Oui, de la concevabilité de l'un sans l'autre, et bien Descartes infère leur séparation, leur distinction réelle. Si je ne pouvais pas concevoir une âme sans un corps, et bien dans ce cas-là, il ne serait pas certain qu'ils sont distincts, et je ne saurais pas si mon âme est vraiment autre que mon corps. Mais du moment que je puis le concevoir sans mon corps, et bien c'est que mon esprit est distinct de mon corps. Donc ça, c'est la deuxième certitude que Descartes tire. À partir de là, le sujet pensant, va continuer sa méditation et va se faire réflexion sur ces deux premières certitudes qu'il a atteintes et va se demander à quelles conditions est-ce que je puis savoir que telle ou telle proposition est vraie. Vous voyez, il va essayer d'établir ce qu'il appelle la règle de vérité. Maintenant que j'ai découvert deux premières vérités, le cogito et mon existence comme chose pensante, eh bien, je vais les réfléchir et me rendre compte de ce que sont les caractéristiques d'une vérité évidente. À quoi est-ce que je reconnais que telle ou telle proposition, telle ou telle affirmation est une vérité indubitable et certaine? Et donc, Descartes va tirer ce qu'il appelle la règle de vérité. Je reconnais qu'une affirmation est vraie si elle est évidente. Et l'évidence se mesure à deux critères, à deux caractéristiques principales, la clarté et la distinction, dit Descartes. La clarté et la distinction, qu'est-ce que ça veut dire? La clarté, c'est le fait que toute l'idée me soit présente, toute la chose à laquelle je pense me soit présente, qu'elle me soit tout entière présente. Si je ne connais qu'une partie de l'idée, si je ne connais qu'une partie de la chose, eh bien, mon affirmation ne sera pas tout à fait fondée, parce qu'elle ne concernera pas toute l'idée. Donc, première chose requise, c'est donc la clarté, ce qui s'oppose donc à l'obscurité. L'obscurité, c'est lorsque je conçois qu'une partie de l'idée, je ne la conçois pas dans son entièreté. Le deuxième critère, c'est la distinction. Donc, il s'agit de concevoir cette fois rien que l'idée. L'idée est seulement l'idée et non pas l'idée mêlée à d'autres idées qui lui sont semblables mais dont on ne parvient pas à les distinguer. Il faut que l'idée soit bien distincte, qu'elle soit autre que les autres. Et c'est donc selon ces deux critères que je vais pouvoir affirmer l'évidence d'une idée ou d'une proposition. Il faut donc clarté que toute la chose me soit présente et distinction rien que la chose me soit présente, toute l'idée, rien que l'idée. Et donc Descartes est vraiment le philosophe de l'évidence, donc de la clarté et de la distinction. Paradoxalement, il n'est pas tellement le philosophe du raisonnement, vous voyez, des syllogismes, des conclusions tirées à partir de principes. Il est davantage le philosophe de l'intuition, de l'attention. Il s'agit pour Descartes vraiment de se rendre attentif aux vérités, de se rendre attentif aux idées, de prendre conscience, c'est vraiment le philosophe de la conscience, de l'attention que la conscience peut porter. Et si je fais attention à ce que je considère, eh bien, je puis le connaître en vérité. Leibniz, par exemple, sera un de ses successeurs, sera beaucoup plus un philosophe du raisonnement, un philosophe de la logique. Il s'agit d'avoir des garde-fous logiques pour vérifier que mes propositions s'enchaînent bien. Chez Descartes, au contraire, il y a comme une méfiance de la logique et au contraire, une focalisation sur l'attention, la clarté, la distinction, donc l'évidence. Les vérités sont assez faciles, assez aisées à connaître, mais il faut que je m'y rende attentif, et cela par tout un travail de purification des images, de purification de tout ce qu'il y a d'imaginaire et de sensible. Dans ma connaissance, il s'agit de ne penser que par l'esprit, libéré des images. Mais si je ne pense que par l'esprit, alors je puis percevoir l'intelligible, je puis percevoir les choses dans toute leur évidence, c'est-à-dire leur clarté et leur distinction. Donc ça, c'est assez important de noter cette caractéristique de la philosophie cartésienne, à rebours un petit peu de ce qu'on peut imaginer de Descartes et même de ce qu'on entend par l'adjectif cartésien. Cartésien, pour nous, ça évoque davantage l'idée de quelqu'un justement qui fait beaucoup de logique, de raisonnement. Chez Descartes, il y a vraiment cette intuitivité du savoir, cette capacité de l'esprit à connaître, à voir en quelque sorte les vérités. Cette pénétration, on pourrait dire, de l'esprit, vraiment l'esprit a cette capacité à entrer en quelque sorte dans les choses, à lire l'intelligibilité des choses, à saisir les idées de manière intuitive. Évidemment, il y a aussi des chaînes de raisonnement, mais c'est d'abord un philosophe de l'intuition et de l'attention. Le cogito étant évidemment le paradigme de cette connaissance évidente, intuitive. Ensuite, si on reprend donc l'itinéraire cartésien, Descartes va se demander maintenant, maintenant que j'ai établi ma propre existence comme chose pensante, est-ce que je puis savoir autre chose que moi ? C'est le problème de la sortie du solipsisme. Le solipsisme, c'est le fait d'être quelque sorte enfermé en soi-même, dans la solitude de sa propre conscience. Est-ce que je puis connaître autre chose que moi ? Est-ce que je puis avoir rapport à autre chose que moi ? Ou est-ce que tout ce qui n'est pas moi va rester douteux, incertain et donc provisoirement faux ? Et donc Descartes va essayer de sortir de lui-même. Sauf que le seul moyen qu'il a de sortir lui-même, c'est d'examiner ses propres idées. L'autre moyen, ce serait évidemment de se fier à ses perceptions, mais on a dit que nos perceptions étaient tenues pour fausses, étaient tenues pour douteuses, parce qu'elles ne présentent pas le caractère d'évidence et d'indubitabilité qui est ici requis. Et donc, je ne peux pas me fier à mes sens, donc le seul moyen de chercher s'il existe quelque chose d'autre que moi, ça va être de passer par mes idées. Je vais examiner mes propres idées et voir si dans mes idées, il n'y en a pas certaines qui attesteraient une autre existence que la mienne. Et donc Descartes va en particulier tomber sur une idée que nous avons tous dans notre esprit, qui est l'idée de Dieu. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous entendu parler d'un Dieu, c'est-à-dire d'un être parfait, infini. Et Descartes donc tombe sur cette idée de Dieu et se demande si il est possible que son esprit ait produit cette idée, ou si au contraire, il n'est pas possible que son propre esprit ait produit cette idée, ce qui supposerait qu'autre chose que lui ait produit cette idée et lui ait donné. Et donc l'argumentation de Descartes va être la suivante. Cette idée d'un être infini, d'un être parfait, moi qui suis un être fini, je ne puis pas en être l'origine. Je n'ai pas assez de réalité pour être la cause de cette idée d'un être tout parfait et infini. Pourquoi est-ce que je suis un être fini ? Je suis un être fini tout simplement parce que je doute et que douter est une imperfection. Si je savais tout, je ne douterais jamais. Mais le fait que je doute, c'est bien que j'ignore certaines choses. Et donc, je ne suis pas infini, je manque, en l'occurrence ici, de connaissances. Donc, j'ai des manques et donc je suis fini. Donc, mon esprit est quelque chose de fini. Or, l'idée de Dieu est l'idée d'un être infini. Et moi, qui suis fini, je n'ai pas assez de réalité pour être la cause de cette idée-là. Et donc, il va falloir poser l'existence d'un autre être que moi, qui, lui, aurait assez de réalité, aurait assez de perfection pour être à l'origine de cette idée d'infini. Et quel être a assez de réalité pour être la cause de cette idée d'infini ? Eh bien, un être qui est lui-même infini. Aucun être fini ne peut être la cause de l'idée d'infini. Et donc, il faut bien poser l'existence d'un être lui-même infini qui est la cause de mon idée d'infini. Et cet être lui-même infini qui est la cause de mon idée d'infini, c'est Dieu. Et donc ainsi, Descartes prouve l'existence de Dieu, vous voyez, de manière totalement a priori, c'est-à-dire sans partir de l'expérience, comme le faisaient davantage les scolastiques après Aristote. On part de l'existence de certaines choses et on remonte vers une cause elle-même existante de ce dont je perçois l'existence. Mais au contraire, chez Descartes, c'est une preuve a priori de l'existence de Dieu, c'est-à-dire par les seules idées, par la seule inspection de mes propres idées et en analysant mes idées, et pas du tout en se référant à des choses existantes dont j'aurais l'expérience en dehors de moi. Ensuite, Descartes va reprendre aussi des preuves a posteriori, mais la grande preuve qu'il donne dans la troisième méditation métaphysique, c'est une preuve a priori, la preuve par l'idée de Dieu. Donc ça, c'est ainsi que Descartes établit la deuxième existence, après la sienne, après l'existence du sujet pensant, eh bien, il y a l'existence de Dieu, simplement par inspection de mes propres idées. Et enfin, Descartes va se demander, à partir de là, d'où vient maintenant que je me trompe ? Il y a ici comme une sorte de paradoxe. S'il y a un Dieu infini, pourquoi est-ce qu'il me tromperait ? Pourquoi est-ce qu'il me donnerait des idées qui, en fait, ne correspondent pas à la réalité ? D'où vient l'erreur si il y a un Dieu infini, et donc parfait, et donc vérace, qui ne va pas me tromper, parce que tromper est une imperfection, donc Dieu qui est parfait ne peut me tromper. D'où vient donc que je me trompe ? D'où vient l'erreur ? Et donc ça, c'est dans la quatrième méditation métaphysique, Descartes va affirmer que l'erreur, elle ne vient pas de Dieu, puisque Dieu ne me trompe pas, puisqu'il est parfait, elle ne vient pas non plus de ma capacité de jugement, de mon esprit, parce que mon esprit, en tant qu'il m'est donné par Dieu, il est bien conçu, on pourrait dire, il est apte à connaître la réalité. Non, mon erreur, d'où vient-elle ? Elle vient du fait que d'une précipitation, elle vient du fait que je vais juger de manière trop hâtive. Je vais juger quelque chose, je vais affirmer quelque chose, donc par la volonté, l'affirmation pour Descartes, c'est un acte de la volonté. J'affirme, je juge, par exemple, que 2 plus 2 égale 4, que tous les signes sont blancs, etc. Je juge cela, mais Descartes dit que parfois je juge de manière précipitée, c'est-à-dire que ma volonté va plus loin que mon entendement. Je n'ai pas encore conçu la chose de manière claire et distincte, et pourtant je vais me prononcer dessus, je vais affirmer quelque chose, et donc, puisque je n'affirme pas une évidence, eh bien, je puis me tromper. Au contraire, pour éviter l'erreur, quelle est donc la méthode à suivre ? C'est de ne pas se précipiter, de ne rien dire, de ne rien affirmer dont je n'ai pas proprement l'évidence. Si je juge trop hâtivement, eh bien, je risque de me tromper. Si au contraire, j'attends d'avoir l'évidence des choses, eh bien, je pourrai ensuite juger d'après cette évidence et mon jugement sera correct. Au contraire, si je me précipite, si ma volonté va plus loin que ce que je conçois clairement et distinctement, alors je puis me tromper. Donc ça, c'est notre règle de méthode que Descartes établit dans son itinéraire, c'est de ne pas se précipiter dans le jugement, mais de bien examiner, de bien peser les choses, on pourrait dire, avant de se prononcer sur elles. Voilà, donc une vraie précaution de l'intelligence, qui est évidemment une vertu intellectuelle importante. Enfin, le dernier grand moment des méditations de Descartes, c'est de se demander si, maintenant que j'ai découvert que moi j'existe, que Dieu existe, est-ce que les corps existent ? Est-ce qu'il y a autre chose que Dieu et moi qui existe ? Est-ce qu'il n'y a pas simplement des esprits, mais est-ce qu'il y a aussi des corps ? Comment est-ce que je vais pouvoir rejoindre tous les corps, voilà, toutes les choses sensibles que j'ai remis en doute ? Rappelez-vous, dans la première méditation, j'ai remis en doute l'existence de tous ces corps parce qu'il n'est pas du tout certain que ces corps existent, je puis en douter. Comment est-ce que je crois savoir qu'ils existent ? Parce que mes sens me le disent, mais mes sens sont peut-être trompeurs, et donc, il n'en est pas certain. Descartes va donc essayer de trouver un pont, ce qu'on appelle le problème du pont, va essayer de construire un pont entre mes propres idées et des réalités extérieures. Est-ce que mes idées correspondent, oui ou non, à des réalités extérieures ? Est-ce que quand j'ai l'idée, par exemple, de couleur, est-ce qu'il y a des choses qui sont véritablement colorées en dehors de moi, ou est-ce que tout ça, ce n'est qu'une pure invention de mon esprit ? Donc c'est le problème du pont, sortir de mon esprit et atteindre des réalités corporelles sensibles extérieures. Comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, Descartes va faire le raisonnement suivant. Il part de certaines choses qui sont présentes en moi, qui sont mes sensations. Le fait est que j'ai des sensations, le fait est que je crois voir des choses, que je sens des choses, etc. J'ai des sensations. Je ne sais pas si ces sensations correspondent ou pas à quelque chose de réel en dehors de moi, mais en tout cas, le fait est que j'ai des sensations. D'où viennent ces sensations ? Est-ce que je puis en être la cause ? Je ne peux pas en être la cause. Pourquoi ? Parce que ces sensations, elles m'apparaissent toujours de manière subie. Je ne choisis pas de voir une couleur, mais la couleur, en quelque sorte, s'impose à moi. Je ne choisis pas de ressentir une douleur quand je me fais mal, par exemple, la douleur s'impose à moi. Donc je ne peux pas être la cause de ces sensations, puisque si j'en étais la cause, elles ne me paraîtraient pas subies comme elles me paraissent être. Est-ce que, donc c'est pas moi qui en suis la cause, est-ce que ça pourrait être Dieu qui en est la cause ? Ce serait assez étonnant, dit Descartes, parce que j'ai quand même bien l'impression que mes sensations me viennent des corps, Et donc, ce serait un peu bizarre que Dieu en soit la cause, puisque ça supposerait qu'il me trompe. À chaque fois, il me ferait croire que mes sensations me viennent des corps, alors qu'en fait, ce serait lui qui en serait la cause. Or, Dieu, étant parfait, est aussi vérace. La véracité divine, c'est quelque chose de très important dans l'économie de la pensée cartésienne. Dieu est parfait, donc vérace, donc il ne me trompe pas à chaque fois. Et donc, puisqu'il est vérace, ce n'est pas lui qui en est la cause. Il ne me trompe pas en me faisant croire que mes sensations viennent des corps, alors qu'elles viennent en fait de lui. Et donc, le seul candidat qui reste, en quelque sorte, pour être la cause de ces sensations, ce sont les corps extérieurs. Au fond, d'où viennent mes sensations? Elles me viennent des corps extérieurs. Et puisque les corps extérieurs sont les causes de mes sensations, c'est bien que ces corps extérieurs existent. Et ainsi, Descartes donc prouve, à partir, là encore, à partir du moi, sans sortir de cette sorte d'immanence du moi, à partir du moi, toujours, à partir des idées du moi, Descartes, juste par analyse de mes propres idées, va établir l'existence des corps. C'est comme ça qu'il va, en quelque sorte, construire un pont entre mes idées et des corps extérieurs. Je ne sais pas si les corps extérieurs correspondent exactement à mes sensations, mais au moins je sais qu'il y a des corps extérieurs parce qu'ils sont cause de mes sensations. Et ça ne veut pas dire que mes sensations sont toujours véridiques, mais au moins le fait même que j'ai des sensations prouve qu'il y a autre chose que moi qui cause ces sensations-là. Donc ça, c'est le terme de l'itinéraire cartésien dans ses méditations. Finalement, je démontre qu'il y a des corps à l'extérieur de moi. Vous voyez donc bien ici le bilan, en quelque sorte, de ces méditations métaphysiques de Descartes, qui sont un aspect de sa philosophie, hein, un peu l'aspect le plus célèbre. Le bilan, c'est quoi? C'est que j'ai établi l'existence de trois types d'êtres. D'abord moi, être pensant, esprit. Ensuite Dieu, et ensuite les corps. J'atteins trois types d'existence à partir de cette analyse de mon esprit. Et le bénéfice que Descartes croit en retenir, c'est de vraiment avoir démontré ces existences-là, alors qu'auparavant elles étaient simplement crues, ou alors elles étaient fondées, mais sur des mauvais arguments. Là, dit Descartes, ces vérités communes, en fait, bien connues, sont véritablement établies, sont solidement établi. Donc on perçoit bien l'intention réaliste de Descartes, le but de Descartes, c'est bien de démontrer des existences, d'atteindre des réalités. Mais tout l'enjeu du cartésianisme, c'est que finalement la manière que Descartes a d'établir le contenu réaliste de sa philosophie, d'établir ces existences-là, cette manière est une manière en fait idéaliste. C'est-à-dire en partant de nos idées, en partant de mon esprit, Descartes en quelque sorte s'enferme dans son propre esprit, et va essayer de retrouver tout ce dont il s'est retiré à partir de son propre esprit. Donc ça, c'est le grand écart, en quelque sorte, cartésien, le grand décalage qu'il y a dans sa philosophie, à la fois une véritable intention réaliste, le désir d'atteindre l'existence des corps, et en même temps, une manière de faire tout à fait idéaliste, une manière de faire qui part des idées et qui prétend, à partir de ces idées, rejoindre des réalités. Sauf que, comme tel, diront ses successeurs, une idée, elle ne prouve pas l'existence d'autre chose que d'elle-même. C'est parce que j'ai des idées que quelque chose y correspond à l'extérieur de moi-même. Donc il y a comme une inconséquence chez Descartes entre cette intention réaliste et cette manière, cette méthode idéaliste. Et cette inconséquence, les cartésiens, donc les grands philosophes qui philosophent à partir de Descartes, je pense par exemple à Malebranche, à Spinoza, à Leibniz, vont vraiment l'apercevoir, cette inconséquence, et ils vont dérouler en quelque sorte la logique du cartésianisme, logique à laquelle Descartes avait essayé de se soustraire lui-même. Je vous donne simplement un exemple. Malebranche dit par exemple que puisque le corps et l'esprit sont distincts, une grande affirmation cartésienne, je puis concevoir l'esprit sans concevoir le corps, c'est donc que l'esprit est distinct, puisque je puis concevoir l'un sans l'autre, et bien donc les deux sont bien distincts, mais si les deux sont distincts, et bien en fait il est impossible de concevoir une action des corps sur mon esprit. Comment est-ce que les corps qui sont d'un autre ordre que mon esprit, peuvent agir sur mon esprit. Et donc, à partir de là, puisque ce sont deux substances séparées, eh bien, en fait, dit Malebranche, la preuve cartésienne de l'existence des corps ne fonctionne pas. Et donc, je ne parviens pas à établir l'existence des corps. Et cette logique du cartésianisme, elle va s'achever en quelque sorte avec un grand philosophe anglais du XVIIIe siècle, Berkeley. Berkeley va soutenir ce qu'on appelle l'immatérialisme. Au fond, je n'ai que des idées. Aucune matière ne correspond à mes idées. Il n'y a pas de matière, il n'y a que des idées. Tout est une projection de mon esprit. Être, dit-il, c'est percevoir ou être perçu. Mais rien n'est en dehors de cette perception, rien n'est en dehors des idées. Cet immatérialisme de Berkeley, qui en vient à nier l'existence des corps, elle est en quelque sorte le fruit logique, le fruit normal du cartésianisme et de cette méthode idéaliste de Descartes. Descartes, vous voyez, donc c'est évidemment le premier moderne, je conclue un peu par là, mais Descartes c'est le premier moderne au sens où il inaugure une manière de philosopher tout à fait neuve. D'abord par cette rupture, cette table rase avec l'héritage qui précède, ça on en a parlé, mais aussi parce qu'il a comme le génie de l'intériorité, le génie de revenir vraiment à l'esprit. Avec lui, la philosophie s'intériorise, on pourrait dire, revient aux idées que l'esprit a, mais il introduit ce faisant, et c'est une conséquence importante, c'est qui va entraîner beaucoup de périls et de difficultés en philosophie. Il y a ce déséquilibre dans l'édifice doctrinal cartésien entre cette méthode idéaliste et ses conséquences virtuellement idéalistes. Est-ce que en m'enfermant moi-même, je ne vais pas atteindre finalement que mes propres idées sans jamais parvenir à renouer avec le réel? Finalement, si je me suis retiré du monde, eh bien, je vais avoir des idées, beaucoup d'idées, mais les cartésiens ont montré que finalement, toutes ces idées, en fait, ne correspondaient à rien d'autre qu'à elles-mêmes et ne correspondaient pas à des réalités extérieures. Donc ça, c'est l'ambivalence du cartésianisme, à la fois grande philosophie de l'intériorité et tout à fait géniale par ce recentrement sur le moi, sur l'ego, mais en même temps, une grande difficulté du coup, dès lors qu'il va falloir rejoindre les corps. Chers amis, j'étais très heureux de passer cette émission avec vous. J'espère que vous avez pu rentrer un petit peu plus dans cette philosophie cartésienne. Je vous redonne les grands titres de Descartes, le discours de la méthode, qui est le plus facile d'accès, et puis les méditations métaphysiques un petit peu plus difficile, mais tout à fait lisible aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous replonger dans ces classiques de la philosophie qui sont toujours inépuisables, qui donnent toujours à penser, même si, comme j'ai essayé de le dire rapidement en conclusion, Descartes pose beaucoup de problèmes qui sont difficilement solubles et peut-être qu'il ne fallait pas les poser de la manière dont il les a posé, mais le fait est qu'il les a posés et que nous pouvons admirer tout de même son effort spéculatif. Je vous souhaite un bon été et nous nous retrouvons dans un mois. Bonne journée à tous.
Vous venez d'entendre Le Monde de la Philosophie dirigé par Élie de Thoras, émission préenregistrée le 16 juin 2026 et diffusée pour la première fois le lundi 20 juillet 2026 de 10h à 11h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.